Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et vous savez à quel point on aime vous faire découvrir les dernières innovations de nos entrepreneurs talentueux. On va s'intéresser aujourd'hui aux innovations en rapport avec la sécurité routière. Et on commence avec cette entreprise toulousaine, Roadlight.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec son fondateur ou cofondateur, Mohamed Aït El Hadj. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Alors déjà un mot sur Roadlight. Vous êtes une start-up spécialisée dans le domaine de la sécurité routière d'une manière générale ?
C'est ça, exactement. Nous, on essaie de résoudre la problématique du manque de visibilité des utilisateurs de deux roues, cycles, motocycles, donc vis-à-vis des autres usagers de la route.
Les motos, les trottinettes, les vélos, tout quoi, tout ce qui a deux roues.
Exactement, deux, trois, quatre roues. Donc, que ce soit en motocycle ou en cycle, c'est notre cheval de bataille, les rendre visibles.
Alors justement, vous avez mis en place un système ingénieux pour rendre les utilisateurs de cycles et motocycles visibles sur la route, mieux que le gilet fluorescent. Expliquez-nous comment.
Alors c'est le Kit Light, donc c'est un équipement de sécurité lumineux qui est en trois parties. Donc on a un module lumineux équipé d'un feu stop, feu de position, clignotant droit à gauche, un harnais sur lequel on vient scratcher le module lumineux et une petite télécommande qui a deux fonctions. Donc cette télécommande va permettre d'activer les signaux lumineux du module lumineux. Donc et cette télécommande elle peut se fixer soit sur un guidon de vélo ou de trottinette pour les utilisateurs du cycle, ou alors être connecté à un système de signalisation arrière d'une moto, d'un scooter, d'un quad.
Ah, on ne met pas sur soi. Je croyais qu'on le plaçait carrément sur son dos. Non, on le met l'engin.
Alors, le module lumineux, en fait, lui, il se porte sur le dos grâce au harnais, d'accord, comme un sac à dos. Donc, ça permet de surélever les signaux lumineux d'une moto, par exemple, à hauteur du champ de vision de celui qui vous suit. C'est un peu comme le troisième feu stop automobile. Et la télécommande, elle, quand on est en vélo, étant donné qu'il n'y a aucun système de signalisation primaire, on est obligé d'activer manuellement les signaux lumineux qu'on a sur le dos. On ne peut pas faire autrement. Et en moto, la télécommande, elle est connectée au système de signalisation arrière grâce à un câble et c'est elle qui va envoyer les informations automatiquement comme quoi vous avez freiné ou mis les clignotants avec les commandes de la moto, du scooter ou du quad.
Alors justement, avec cette commande, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire « on va à droite », on va à gauche, qu'est-ce qu'on peut donner comme information à celui qui est derrière nous ?
Alors par exemple en moto, dès que vous allez mettre le contact, vous allez avoir le feu de position qui s'allume automatiquement, comme celui du véhicule. Donc comme je vous l'ai dit, l'avantage c'est qu'il est à hauteur du champ de vision. Et tout en conduisant, vous allez pouvoir indiquer que vous allez tourner à droite, que vous allez tourner à gauche. Si jamais il y a un danger, vous pouvez activer le feu de détresse. Tout ça à partir des commandes de votre véhicule. Et quand on passe sur un vélo, là, on peut avoir comme fonctionnalité les clignotants. Donc, l'utilisateur du vélo ou de la trottinette n'a plus besoin de tendre un bras.
De lâcher le volant, quoi, pour tendre la main.
Exactement, et risquer une chute. Donc là, il n'a plus besoin de tendre le bras pour indiquer un changement de direction. Il lui suffit d'appuyer sur un des deux boutons qu'il a sur le guidon pour indiquer qu'il tourne à droite ou à gauche. Il peut activer aussi le feu de position, le feu anti-brouillard et le feu de détresse.
En fait, vous partez, j'allais dire, du langage du code de la route, hein, que normalement on a tous intégré quand on conduit une voiture, et vous l'appliquez à ce système de signalisation.
Alors,
c'est les mêmes codes, sauf que c'est sur soi, et c'est au niveau de la, comme je disais, c'est au niveau de la vue, quoi.
C'est ça, donc l'avantage pour les utilisateurs de motocycles, donc quelle que soit la marque, le modèle de moto, scooter ou quad, les feux de signalisation arrière sont en moyenne à 80-90 cm du sol. Donc, quand vous êtes en file indienne, la troisième voiture qui se trouve dans la file, l'usager de la route ne voit pas ce que fait le motocycliste, étant donné que le système de signalisation arrière est masqué par le second véhicule. L'intérêt de porter le click light, ça surélève les signaux lumineux dans le champ de vision, et donc le troisième usager de la route, à travers le pare-brise du second véhicule, peut anticiper ce que fait le motocycliste.
Ouais. Et surtout, pour nos auditeurs, d'un point de vue design, il faut le dire, c'est très simple, hein, c'est très épuré, c'est une forme rectangulaire, comme vous le disiez, fixé à un harnais avec ce qui nous indique le feu principal au milieu et puis les fameux triangles pour annoncer qu'on va à droite ou à gauche.
C'est ça. Donc, en fait, le module lumineux, il est rectangulaire, similaire à un smartphone, on va dire. Donc, qui est positionné à l'horizontale. Et les feux, donc, on a un carré avec 16 LED qui permettent donc d'indiquer le feu stop, le feu de position. Et les clignotants, on a un petit effet balayage, comme sur les voitures haut de gamme. Quand vous avez donc trois petites colonnes, donc qui rétrécissent, donc ça forme un petit triangle. Et quand vous activez un clignotant, par exemple, pour tourner à droite, il va y avoir un effet de balayage des LED, en fait, de la droite vers la gauche. Donc, on a rajouté ce petit effet.
C'est dynamique. Ça attire l'œil.
C'est ça, exactement.
Et par mauvais temps, par temps de brouillard ou la nuit, on sait à quel point juste lever le bras, c'est pas toujours très visible.
Non. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un détecteur de luminosité. Donc, l'intensité des LED, en fait, elle va s'adapter à la luminosité environnante. Donc, la journée, la puissance des LED est augmentée pour être visible, même en plein soleil, à plus d'une centaine de mètres. Et de nuit, ou lorsque la visibilité est fortement réduite, on a la puissance des... lorsqu'il fait nuit, la puissance des LED, elle, va être réduite pour ne pas éblouir l'usager qui vous suit.
Ah, bien sûr.
Voilà.
Donc, mais du coup, comment ça se recharge tout ça? Parce qu'on a tout ce matériel chez soi. On a envie de repartir sur sa moto, sa trottinette, son vélo. Comment on fait? Ça se recharge à la maison? Ce sont des piles? Comment ça fonctionne?
Alors, la télécommande et le module lumineux sont équipés de batteries. Donc, pour le module lumineux, il suffit de le recharger 4 heures. Et vous pouvez utiliser, par exemple, 25 heures de position allumée en continu, ce qui représente à peu près en utilisation quotidienne, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Vous en avez pour une semaine à 10 jours d'utilisation sans avoir à le recharger. Et pour la télécommande, si vous l'utilisez en cycle, donc c'est-à-dire fixé sur un guidon de vélo ou d'une trottinette, ou alors dans le creux de la main pour les utilisateurs de monoroue, eh bien en fait, vous la rechargez en 3 quarts d'heure, 1 heure, à peu près, et on peut l'activer en mode feu de détresse pendant plus de 100 heures. Là aussi, il n'y a pas nécessité de la recharger tous les 2-3 jours, on en a pour une dizaine de jours facile.
C'est ça, il y a une bonne autonomie de 10 jours environ.
C'est ça. Par contre, quand la télécommande est connectée au système de signalisation arrière d'un véhicule, donc d'une moto, d'un scooter ou d'un quad, on n'a plus besoin de la recharger, étant donné que dès qu'on met le contact, c'est le feu de position, l'énergie qui passe par le feu de position, qui va alimenter directement la télécommande. Donc on n'a plus besoin de la recharger, en fait.
Et cette innovation française, toulousaine, sera présente, elle aussi, au CES de Las Vegas. C'est une première pour vous d'aller justement aux États-Unis défendre votre innovation?
Alors, nous, c'est la 5e année consécutive qu'on va participer au CES.
Vous êtes un habitué.
Oui. Donc, en 2018, 2019 et 2020, on a eu la chance de présenter nos innovations à l'Eureka Park, parmi les 1000 meilleures startups au monde. Donc, le projet a convaincu, on a eu énormément de contacts, auxquels on va donner suite dès 2022. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette année, on sera dans un pavillon, on sera en dehors de l'Eureka Park, on sera sur l'automotive, sur le pavillon Business France. Et donc là, en fait, on y va plus en tant que pour présenter des prototypes ou des projets qui vont être lancés.
Là, on passe un niveau dessus, là.
Bah, là, maintenant, on y va en mode, comme j'explique, en mode commercial. Donc là, on a notre packaging qui est finalisé, on a nos prix qui sont prêts. En fait, voilà, nous, aujourd'hui, on est prêts à commercialiser le ClickLight à grande échelle. Donc, on a déjà commencé. Donc, on est en discussion avec plusieurs distributeurs internationaux et on va justement au CES Las Vegas pour présenter cette fois-ci.
Pour continuer à étendre tout ça sur les autres territoires. Souhaite beaucoup de chance, Mohamed Ait El Hadj. Et je rappelle que vous êtes justement le cofondateur, c'est ça, de Roadlight,
je suis l'inventeur du ClickLight et cofondateur de la société Roadlight avec mes trois associés que je salue, ainsi que notre directeur de marque et toutes nos équipes techniques. Qui je remercie de nous avoir accompagnés du début de ce projet jusqu'à aujourd'hui et qui continue à nous accompagner tout au long de cette belle aventure.
Eh bien, on a envie de vous dire, allez Toulouse, on compte sur vous. C'est CES de Las Vegas. Allez, bonne chance à vous et à très bientôt.
Et merci à la région.
Merci Mohamed Ait El Hadj.
Au revoir.
Allez, il est temps de se quitter un court instant et on se retrouve dans quelques minutes pour évoquer une autre innovation en rapport avec la sécurité routière. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio CESA La France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, consacré à toutes ces innovations pour la sécurité routière, notamment. Alors, direction Dijon pour découvrir une société qui développe cette fois-ci des airbags pour tous les publics.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Gérard Thévenot, président de la société Elite. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors depuis 2002, votre entreprise est spécialisée dans la fabrication d'airbags pour les motards dans un premier temps. Et après, vous l'avez développé pour d'autres, cavaliers, cyclistes.
Oui, effectivement, on a commencé par les motards parce que c'est là où il y avait le plus d'accidents. Mais très rapidement, d'accidents mortels ou graves, très rapidement, on a été contacté par des cavaliers qui nous ont dit qu'effectivement, des accidents étaient en général moins graves.
Mais ils tombent beaucoup, hein, les chutes sont importantes.
Beaucoup plus souvent. Et ça peut être des côtes plus graves, des
colonnes vertébrales,
vertébrales, etc. Donc on a très rapidement décliné le produit en produit équitation. Et ensuite, très rapidement aussi, on a été contacté par des chirurgiens qui réparent les cols du fémur de personnes âgées. C'est une pathologie qui est très, très fréquente puisqu'il y a 72 000 ruptures du col du fémur par an en France, 300 000 aux États-Unis, 90 000 en Allemagne, et avec des conséquences très graves, puisqu'on a 25 % des personnes de plus de 75 ans qui meurent dans l'année qui suit. Donc on a vraiment travaillé sur ce sujet et on a un très beau produit, c'est une ceinture qu'on met sous un pull ou par-dessus, et puis en cas de chute, avant d'arriver par terre, l'airbag se déclenche et se gonfle en protégeant donc le col du fémur, le haut du fémur, le bassin.
Donc il ne faut jamais oublier de la mettre en fait. C'est comme si on mettait une ceinture de pantalon, mais on rajoute cette ceinture de protection que l'on porte toute
la
journée.
Alors elle tient, ça ne sert pas de bretelle, elle ne tient pas le pantalon. C'est une surceinture un petit peu comme,
ouais,
une banane de voyage, hein, mais un petit peu moins encombrant. Enfin, ça dépend ce qu'on met dans sa banane en voyage.
D'ailleurs, peut-être que ceux qui nous écoutent se posent la question, ça coûte cher justement pour les particuliers, pouvoir justement bénéficier d'une ceinture comme ça pour protéger le fémur?
Alors, ceinture de col du fémur, elle est à 690 euros prix public, TTC. C'est beaucoup moins cher que les conséquences d'une,
oui, ça c'est sûr,
d'une chute de col du fémur.
Et si, par exemple, on tombe et qu'elle se déclenche, après, comment ça se passe? Ça peut se remettre en...
Ah oui, oui, oui. Autrement, pour les personnes qui tombent souvent, c'est pareil d'ailleurs en équitation, en moto, en vélo. Avec nos produits, tous les produits Elite, lorsqu'on tombe, ils sont réutilisables. C'est pas comme un airbag voiture où on va l'utiliser qu'une fois et en général la voiture est en mauvais état. C'est vraiment des airbags réutilisables. Vous tombez de cheval, il faut juste changer la cartouche, ça coûte 22 euros, ou tomber de moto, c'est pareil. Et ceinture col du fémur, il y a deux petites cartouches à changer au lieu d'une grosse, parce que c'est la ceinture, elle doit être vraiment très 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 fine pour ne pas être encombrante. Et en vélo, pareil.
Alors secteur...
Vous tombez, vous changez la cartouche, vous repartez.
Quand on vous écoute, on se dit, alors il y a différents marchés, différents publics, c'est un secteur où on ne cesse d'innover, j'imagine.
Oui, c'est indispensable parce qu'on a quand même beaucoup de copieurs,
oui,
d'Asie ou même d'Europe. Et pour rester sur le marché, et aussi le but de notre société, c'est de fournir une meilleure protection à tous les utilisateurs, de tous les pratiquants d'activités à risque, les utilisateurs de nos produits. Donc on est effectivement tout le temps en train d'essayer d'améliorer l'efficacité de la protection, d'améliorer l'efficacité de la détection de la chute. C'est particulièrement vrai pour les personnes âgées. C'est très difficile de faire la différence entre une personne qui va se laisser tomber sur un sofa où il ne faut pas déclencher, et puis la même chose si jamais elle tombe à côté du sofa.
Bien sûr, oui.
Donc on est toujours en train d'améliorer les systèmes de détection, les algorithmes, les capteurs qui vont nous servir à analyser la position du motard, du cycliste, de la personne âgée.
Alors c'est important de le dire ça à nos auditeurs, c'est que c'est une entreprise qui exporte la majorité de sa production. Donc ça participe au rayonnement du savoir-faire français à l'international.
Oui, Elite, on vend quand même beaucoup en France, mais notre premier client, c'est l'Allemagne, ça reste en Europe. Mais en ce moment, les États-Unis sont en train vraiment de rattraper, et je pense que d'ici, en tout cas pour 2022, il y a de fortes chances que les États-Unis soient le premier client chez Elite.
Ah oui, alors il faut le dire, vous n'êtes pas le seul en ce moment, vous souffrez actuellement de la pénurie des matières premières. Ça, c'est un vrai problème.
Effectivement, le plus aigu, ce sont les composants électroniques où les fournisseurs, les fabricants ne nous donnent même plus de délai. On est sur une liste d'attente et puis de temps en temps, on nous dit ben, c'est arrivé, c'est pas arrivé. Le problème, c'est que sur une carte électronique, vous pouvez avoir 100, 150, 200 composants.
Bah oui.
S'il en manque un seul, vous ne pouvez pas du tout fabriquer le produit. Pour les autres matières, c'est aussi assez tendu. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement en aluminium, même au niveau du textile, c'est un petit peu plus long que d'habitude.
Bah dans la bonneterie, on rencontre de grands problèmes également,
voilà.
Effectivement.
On nous donne quand même des délais, c'est-à-dire que le fournisseur, ben, au lieu d'avoir 2 mois, 3 mois de délai comme habituellement, il va nous donner 6 mois, 7 mois. C'est à peu près tenu, mais ça pose des gros problèmes pour s'organiser, nous, en aval, avec tous les techniciens qui travaillent chez nous pour fabriquer les produits. Si on n'a pas les matières premières, on est bien embêté.
Ouais. Est-ce que, du coup, ça pose question sur sa façon de travailler, se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver le moyen de produire nous-mêmes ces pièces ? Ou bien c'est un autre savoir-faire, et ça, vous ne pouvez pas le faire.
C'est la prise de conscience qui est politique actuelle. Hein. On entend de plus en plus de politiciens qui disent on va relocaliser, mais ça ne se fait pas comme ça, de relocaliser. Pour vous donner un exemple, on l'a vu pour les masques, par exemple, au niveau de la crise du Covid. C'est un produit qui est, on va dire, très très simple à faire par rapport à des produits électroniques, mmh. Malgré tout, il reste quand même la concurrence des pays, notamment pays Europe de l'Est, où on est de fait dans le même pays, puisqu'il n'y a pas de frontières. Par contre, on a des législations sociales, environnementales qui sont très différentes, qui fait que nous, un employé, même au SMIC, une fois qu'on a payé toutes les charges, on est plutôt à 30-35 euros de l'heure. Alors qu'en Bulgarie, Roumanie, vous êtes à 5 euros maximum.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2022, Gérard Thévenot ?
Eh bien, pour l'instant, c'est bien parti. On a fait quand même une très, très bonne fin d'année 2021. On a beaucoup de commandes pour 2022. Effectivement, l'aléa, il va se trouver à deux niveaux. On a un problème au niveau de l'approvisionnement des matières premières et puis trouver aussi de la main-d'œuvre compétente.
D'accord, trouver de la main-d'œuvre et la matière première.
Bah, écoutez, main-d'œuvre compétente.
Et compétente,
on en trouve
c'est
quand
vrai.
Même, malheureusement, il y a pas mal de jeunes qui sont au chômage, mais qui ont fait des formations, le bac, et puis ensuite 2 ans de droit ou de sciences sociales, d'informatique, mais qui sortent sans avoir de métier en main.
Oui.
Avant, on avait des gens qui avaient un travail dès le 14 ans, 16 ans, qui étaient en apprentissage, et ces gens-là avaient déjà appris à travailler. Donc même si on devait changer de travail, ils avaient quand même d'énormes bases pour savoir travailler. Quelqu'un qui n'a pas travaillé avant 20 ans, c'est beaucoup plus difficile à le remettre en route.
Eh bien, on vous souhaite de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. D'ailleurs, nos auditeurs qui nous écoutent, je le rappelle, c'est l'entreprise Elite située à Dijon. Et surtout de la matière première pour que vous puissiez continuer votre belle lancée sur 2022. Merci beaucoup Gérard Thévenot pour votre témoignage.
Je vous remercie. Bonne année à vous.
Merci. Au revoir. Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio Cessa la France avec Thibaut le French Trotter.
Et cette semaine Thibaut, je crois que vous allez nous faire découvrir une entreprise dont le nom est synonyme de produits d'excellence comme les plaids, les couvertures, les châles confectionnés avec des matières naturelles d'exception.
Et oui, cette entreprise, c'est la manufacture Brun de Vian-Tirant. Elle incarne un savoir-faire lainier exceptionnel qui est né il y a plus de 200 ans à Lille-sur-la-Sorgue, c'est en Provence. Et c'est une entreprise qui restait familiale puisqu'elle est dirigée aujourd'hui par les descendants directs des fondateurs. Et je suis justement en ligne avec Jean-Louis Brun, qui représente la 8e génération.
Bonjour Jean-Louis.
Bonjour à tous deux.
Vous allez bien ?
Bonjour à tous.
Bonne année.
Bien. Bonne année à tous et à vos auditeurs.
Alors explique-moi Thibaut, pourquoi ce choix aujourd'hui ?
Parce que c'est une entreprise familiale d'abord et c'est une entreprise d'exception. Et je voulais justement demander à Jean-Louis l'histoire de Vientiran, c'est l'histoire de votre famille. Est-ce que vous pouvez la rappeler un petit peu aux auditeurs de Sud Radio en quelques mots ?
C'est avec plaisir, c'est en effet une histoire de famille depuis 8 générations, depuis que mes ancêtres Charles Tiran et Laurent Vian, d'où le nom un petit peu compliqué,
Brun de Vientiran,
voilà, ont créé cette entreprise sur les bords de la Sorgue. C'était une petite roue à aube, c'était un petit moulin à foulon. Elle a bien grandi, elle est restée, surtout elle est restée en France où elle a toujours fabriqué. Et 8 générations plus tard, donc c'est passé, alors ça a changé de nom parce que c'est passé par des femmes.
Ah, il y a toujours moins, une femme, vous savez, voilà, hein, toujours une femme dans l'histoire.
Et vous en conviendrez, nous en conviendrons tous, même si ça passe par les femmes, c'est en ligne directe, tout aussi directe par les hommes, mais ça change de nom. Alors d'où Brun de Vientiran, mais voilà, c'est la même famille, effectivement, ce sont mes ancêtres. Et aujourd'hui, ben, nous co-dirigeons, mon père et moi, cette entreprise, et nous continuons à porter le savoir-faire français, le savoir-faire local et les matières naturelles.
Justement, ces matières naturelles, quelles sont-elles, justement ?
Ce sont des laines, et alors des laines de tous les pays du monde, de nombreux animaux. Alors avant tout, les laines de France. Nous sommes le premier partenaire français des bergers de France. Nous sommes leur premier client, le premier transformateur des laines de France en France. Et nous travaillons avec eux depuis deux siècles, en fait, hein, depuis 1808. Et nous valorisons ces laines avec eux. Nous avons même retrouvé, en travaillant avec les bergers de la région d'Arles, tout près d'ici, la laine la plus fine d'Europe, qui est une laine exclusive pour notre manufacture. Et puis nous travaillons des laines de chameau, d'alpaga, de cachemire, de mohair, qui viennent de tous les continents.
Est-ce que le savoir-faire a changé, justement, depuis le début de l'entreprise ?
Oui, nous avons en fait pris le virage des laines douces, des laines esthétiques, à partir des années 60, quand mon grand-père, Louis Brun, a été le premier sur le continent européen à créer des couvertures et des plaines en mohair, cette fibre, cette belle laine qui est aujourd'hui très connue, mais qui l'était très peu à l'époque et qui était une révolution dans le monde du linge de maison. Voilà, aujourd'hui, le mohair Brun de Vientiran, c'est presque un objet culte dans de nombreux foyers français. Voilà, on nous demande de renouveler des plaids ou des couvertures achetées dans les années 60 ou 70, et si possible dans le même coloris.
Donc vous avez su réintroduire et recréer. Il y a une chose qui nous intéresse beaucoup, Nathalie et moi, ici à C'est ça la France, c'est qu'on peut visiter votre entreprise.
Absolument, on peut la visiter de deux manières. Alors, au quotidien, 360 jours par an, notre musée La File Aventure est ouvert à Lille-sur-la-Sorgue. Et là, c'est une véritable visite de l'entreprise. On voit même des choses qu'on ne verrait pas en visitant la manufacture elle-même. Il y a plus d'une heure de film dans ce musée. Il y a un parcours interactif de 300 mètres carrés. On peut toucher à toutes les étapes de la fabrication. C'est laine qui deviennent des fils, des tissus, des étoffes. On peut voir le travail avec la plus haute école française de création industrielle, avec les bergers. On peut écouter et voir les témoignages de nos ouvriers dont certains travaillent de la même famille. Hein,
d'accord, donc c'est vraiment immersif, quoi. C'est vraiment un parcours immersif.
Complètement immersif. C'est exactement le terme, totalement immersif, c'est comme ça que nous l'avons voulu. On nous voit, mon père et moi, en train d'imaginer une étoffe et en train de découvrir une laine exceptionnelle que nous n'avions jamais vue avant. Et je vous jure que nous ne l'avions jamais vue avant. Bon, je l'avais gardée secrètement.
Donc à découvrir en venant vous voir. Qu'est-ce qu'on fait si on veut venir ?
Elle-même, si je peux me permettre, voilà, pendant des événements et plusieurs fois par mois, très bientôt, la manufacture elle-même a des visites de groupe guidées par des personnes qui travaillent dans la manufacture.
Donc pour venir vous voir, qu'est-ce qu'on fait ?
Le site web. Voilà, sur le site web, lafileaventure.com, ou en appelant tout simplement 04 28 70 28 00, et vous serez très gentiment renseigné par le personnel.
On sait qu'on sera bien accueillis. Allez, bon dimanche, merci beaucoup Jean-Louis.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Allez, on arrive déjà à la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. D'ici là, portez-vous bien. Et pour les nostalgiques, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur sudradio.fr. Bonne journée à vous.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.